Palestine ici, Palestine là-bas, Mabrouk Lazreg au micro de Radio Calade. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la Palestine, à son histoire, à son actualité. Aujourd'hui, il sera question de plusieurs thèmes. Une analyse, dans un premier temps, pour analyser un peu la situation en Palestine. Après, comme à l'habitude, on aura une pause culturelle avec une chanson que je vous ai choisie, qui sera interprétée par le chanteur palestinien Mohamed Assaf. Suite à ça, j'aurai l'honneur de traduire un peu les paroles de sa chanson avec une biographie de l'auteur, parce que c'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire et quel est le parcours de l'artiste. En troisième point, j'aborderai avec vous la question des prisonniers palestiniens, ou plutôt de la question des prisonniers politiques palestiniens, puisque cela s'inscrit dans une action qui a eu lieu à travers le monde entier, puisque c'était la journée des prisonniers, le samedi 17 avril. Donc pour rester un peu dans cette actualité, j'aborderai avec vous cette question en termes de chiffres, et en termes de faits pour l'année 2020. Et je terminerai, si j'ai un peu le temps, avec un peu d'histoire pour ne pas oublier le 9 avril 1948 en Palestine, spécifiquement dans la ville de Deir Yassine, ce qui s'était passé. Donc voilà, je vais commencer avec une analyse que je vais partager avec vous. Pourquoi appeler Israël un état d'apartheid ne suffit pas? B'Tselem, un important groupe de défense des droits de l'homme en Israël, a récemment publié un rapport concluant qu'Israël est un état d'apartheid, avec un régime de suprématie juive s'étendant du Jourdain à la mer Méditerranée. Le rapport constate qu'Israël répond à la définition de l'apartheid en droit international, qui définit l'apartheid comme des actes inhumains commis dans le but d'établir et de maintenir la domination d'un groupe racial de personnes sur tout autre groupe racial de personnes et de les opprimer systématiquement. Le rapport a reçu une large attention des médias internationaux et a été décrit comme un tournant décisif. Mais ce n'était qu'un moment décisif pour B'Tselem, qui utilisait le terme « apartheid » pour la première fois de ses trois décennies d'histoire. Et pour une communauté internationale tellement entichée des voix israéliennes, pour les Palestiniens, rien de tout cela n'est nouveau. Les Palestiniens dominants. B'Tselem n'est pas le premier groupe de défense des droits de l'homme à appeler Israël un régime d'apartheid. En 2009, des universitaires palestiniens et sud-africains ont publié un rapport complet qui a déterminé qu'Israël commettait le crime d'apartheid. Deux organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme, Adala et Al-Haq, faisaient partie de cette initiative. Deux anciens rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les droits de l'homme en Palestine sont parvenus à une conclusion similaire. En 2007, John Nugard a déterminé que les éléments de l'occupation constituent des formes de colonialisme et d'apartheid. Et, il y a quelques années, Richard Falk a coécrit un rapport constatant qu'Israël a établi un régime d'apartheid qui opprime et domine le peuple palestinien dans son ensemble. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas tardé à se distancier du rapport, ordonnant son retrait du site web de l'ONU. Typique du racisme occidental, les Israéliens sont jugés plus fiables, estimés et leur contribution plus valable que celle des Palestiniens qui vivent quotidiennement l'apartheid, la colonisation et l'occupation. Pourtant, le rapport B'Tselem est un développement bienvenu. Comme universitaire, Rafa Ziada souligne, il est en face d'une campagne orchestrée insonorisant qui tente de débat avant qu'il ne commence à saisir même. En ce sens, il est pertinent qu'une organisation israélienne de défense des droits de l'homme ait déclaré ce que les Palestiniens soutiennent depuis des années. Bien que l'utilisation du cadre de l'apartheid en relation avec Israël ne soit pas nouvelle, elle prend de l'ampleur dans la réalité d'un État unique, alors que le paradigme de l'occupation est construit sur la fausse hypothèse de la temporalité et maintient une distinction entre les territoires de 1948 et de 1967. Le cadre de l'apartheid reconnaît qu'Israël est le pouvoir de gouvernement effectif entre le fleuve et la mer, où il adopte un régime racialisé. Crime contre l'humanité. En vertu du droit international, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Et les preuves montrent clairement qu'Israël est un état d'apartheid. Sur tout le territoire entre le fleuve et la mer, ces systèmes politiques et juridiques visent tout à assurer la suprématie et la domination raciale juive. Au milieu de la pandémie de Covid-19, Israël a refusé de vacciner les millions de Palestiniens qui vivent sous son contrôle, tout en vaccinant les Israéliens, y compris les colons juifs, en Cisjordanie occupée. Mais la Palestine ne peut pas être comprise simplement en termes d'apartheid, car cela n'offre qu'une compréhension limitée et partielle de la situation. Israël est un État colonial qui pratique à la fois l'apartheid et l'occupation permanente. La conversation qui émerge dans les circuits libéraux autour de l'apartheid et de la Palestine ne reconnaît pas le colonialisme des colons comme la structure globale de l'État israélien. Nous avons une telle dynamique dans le récent appel de Peter Benhart pour un État binational dans lequel l'apartheid est reconnu, mais pas le colonialisme sioniste israélien. La domination raciale est traitée comme une caractéristique autonome de l'État israélien, déconnectée de l'entreprise coloniale des colons en Palestine. Même lorsque l'apartheid est reconnu, il n'y a pas de considération pour le sionisme en tant qu'idéologie et mouvement raciaux. Le rapport de Betselem est un parfait exemple. Le rapport de Betselem est un parfait exemple de cette nouvelle approche qui vient au premier plan des critiques progressistes libérales d'Israël. Le rapport ne mentionne pas une seule fois la colonisation ou le colonialisme des colons. Paradoxalement, l'un des membres du conseil d'administration de Betselem a commenté, je cite, « Tout changement, quel qu'il soit, commence par une lecture correcte de la réalité que l'on cherche à modifier. Regardez cette réalité avec les yeux ouverts et l'appeler par son nom. » Apparemment, pour Betselem, le colonialisme des colons ne fait pas partie de cette réalité. L'utilisation de l'apartheid comme cadre unique va dans le sens des tentatives croissantes visant à limiter la compréhension de la question de Palestine à des catégories juridiques rigides. Le droit international est important et doit être mis à profit à notre avantage. Mais il serait dangereux de laisser le droit international guider seul notre compréhension de la réalité en Palestine ou de la nature de nos revendications politiques. La question de Palestine est une question politique, pas seulement une question juridique. Il est vrai que le colonialisme des colons n'est pas illégal en vertu du droit international. Mais ce n'est pas une raison pour que notre compréhension de la Palestine se limite au droit international. En nous cantonnant au droit international, nous risquons de parler uniquement de domination raciale et d'ignorer la domination coloniale. Nous devons parler des deux et nous devons reconnaître que la domination raciale et l'apartheid israélien font partie et sont inséparables de la domination coloniale des colons. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner le cadre de l'apartheid, mais plutôt que nous devons nous méfier des interprétations libérales de l'apartheid israélien. Les Palestiniens utilisaient l'analogie de l'apartheid bien avant qu'il ne devienne un crime contre l'humanité. Comparaison de la Palestine avec l'apartheid, l'Afrique du Sud a une longue histoire radicale qui précède la découverte récente de l'apartheid par certains Israéliens. Les Palestiniens considéraient l'Afrique du Sud comme la Palestine, comme un État racial, colonial et eux-mêmes comme faisant partie d'un mouvement mondial anticolonial, anti-impérial et antiraciste plus large. Les Palestiniens proposent des analyses politiques et intellectuelles sur la question de Palestine depuis des décennies. Mais même lorsque les Palestiniens utilisent l'apartheid comme cadre d'analyse, cela ne se fait pas au détriment du cadre colonialiste, ils le complètent. Les organisations universitaires et militants israéliens ne sont pas et ne devraient pas être les arbitres de ce qu'Israël est et n'est pas, ou de ce que devrait être la solution. L'effacement du colonialisme des colons dans la conversation sur l'apartheid israélien risque de déplacer la décolonisation au profit de projets libéraux d'égalité. Il configure la Palestine comme une question libérale plutôt que coloniale. La décolonisation n'est pas une métaphore ou un mot à la mode qui se répand facilement. Bien qu'elle ne soit pas facile à définir, la décolonisation n'est certainement pas synonyme de projets libéraux d'égalité, mais si elle est de plus en plus cooptée en tant que telle, contrairement à l'égalité libérale, la décolonisation exige le démantèlement du colonialisme, de ses institutions et de ses logiques. Notre liberté en dépend. Voilà, je voulais partager avec vous cette analyse qui m'a vraiment interpellé. Elle est de Lana Tatour. Lana Tatour, c'est une professeure adjointe en développement mondial à l'université de Sydney en Australie. Donc voilà, c'était... Parce que des fois, il y a aussi l'emploi des mots, la conception qu'on se fait un peu de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine occupée, le rapport dominé-dominant. Donc c'est bien d'avoir des clés pour comprendre la situation là-bas. Et du coup, voilà, je voulais vous faire partager cette analyse. Donc, sans plus tarder, comme à notre habitude, on va faire une petite pause culturelle. Mais comme je vous avais promis, on va écouter le chanteur palestinien Mohamed Assaf. Et je reviens vers vous suite à ça. A tout de suite.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Palestine ici, Palestine là-bas. Voilà, comme vous avez pu écouter le morceau que je vous ai proposé. Dans un premier temps, je vais vous traduire les paroles de sa chanson et après, je ferai une petite biographie. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ses paroles ? Mon sang est palestinien. Sur mon engagement envers ma religion, sur ma terre, rencontrez-moi. Je suis pour ma famille, je les rachète. Moi, mon sang est palestinien. Moi, mon sang est palestinien. Et nous vous arrêterons, Et nous vous arrêtons, ô notre pays. Avec notre fierté, notre identité arabe, le pays de Jérusalem nous a appelés. La voix de ma mère m'appelle. Palestinien, palestinien, moi, mon sang est palestinien. Sur mon engagement vers ma religion, sur ma terre, rencontrez-moi. Moi, pour ma famille, je les rachète. Moi, mon sang est palestinien. Moi, mon sang est palestinien. Voilà quelques paroles de la chanson de Mohamed Assaf. Alors, pour présenter un peu l'auteur, Mohamed Assaf, en arabe, on dit Mohamed Assaf. Mohamed Assaf est un chanteur palestinien, membre d'une fratrie de 9 frères et sœurs. Mohamed Assaf est né à Misrata, en Libye, de parents palestiniens. La famille de sa mère, qui était professeur de mathématiques, est origine du village de Beit Daras, détruit par l'armée israélienne en 1948. La famille de son père est de Beersheba. Mohamed Assaf vit à Misrata jusqu'en 1993, année où ses parents déménagent à Gaza, au camp de réfugiés de Khan Younes, où il fréquente l'école primaire de l'UNRWA. Il a remporté le premier titre de la deuxième saison du programme de télé-réalité pan-arabe Arab Idol, diffusé sur la chaîne MBC en 2013. Diffusant sa victoire, Al Jazeera, anglais, l'a interviewé à Doha, au Qatar, lors de sa tournée, et lui a consacré un épisode entier du programme Inside Story, détaillant le parcours d'Assaf à travers Arab Idol. Il a été décrit comme le chanteur de mariage de Gaza, qui a grandi dans un camp de réfugiés et devenu une star internationale et un héros palestinien. Il a été surnommé par le chanteur libanais Rareb Alama, en arabe on dit Rareb Alama, membre du jury d'Arab Idol. Il a été surnommé Assarour, qui veut dire la fusée. Voilà, c'était notre petite page, notre petit point culturel avec une chanson du chanteur palestinien Mohamed Assaf, dont le titre est « Moi, mon sang est palestinien ». Donc, troisième point, je vais aborder avec vous, puisque c'était quand samedi dernier, on a eu la journée des prisonniers prisonniers, et on ne peut pas aujourd'hui occulter ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Et c'est pour ça que je vais parler avec vous des prisonniers politiques, et je dis bien politiques, prisonniers politiques palestiniens. Alors, pour vous donner un peu les chiffres clés de l'année 2020 concernant les prisonniers politiques palestiniens. On compte, au mois de mars 2021, 4400 prisonniers politiques palestiniens, dont 36 femmes, 11 membres du Conseil législatif palestinien dans les prisons israéliennes, 300 Palestiniens de Jérusalem-Est, 250 de Gaza et 70 Palestiniens d'Israël. 543 prisonniers purgent des sentences de prison à vie et 498 des sentences de plus de 20 ans de prison. La négligence médicale est courante dans les prisons israéliennes. 12% des prisonniers palestiniens souffrent d'hypertension. Selon le comité de soutien aux journalistes, 26 journalistes sont détenus dans les prisons israéliennes. Depuis 1967, 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes, 1 million depuis 1948 et 10 000 depuis 2015. Presque toutes les familles palestiniennes ont des membres qui ont subi des peines d'emprisonnement. Détention administrative. La détention administrative est une procédure qui permet à l'armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable de manière indéfinie, sans inculpation ni procès. 440 Palestiniens sont en détention administrative. Les enfants prisonniers. Depuis 2000, au moins 8000 enfants palestiniens ont été détenus, interrogés et inculpés par la justice militaire israélienne, soit 500 à 700 par an. 168 enfants, moins de 18 ans, sont, au mois de mars 2021, détenus dans les prisons militaires israéliennes. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la situation globale des mineurs palestiniens et les persécutions récurrentes à leur encontre. Ils peuvent en effet être détenus et interrogés pendant quelques heures ou quelques jours, puis relâchés. De ce fait, De nombreuses arrestations ne sont pas documentées. Les dernières statistiques sur la détention administrative de mineurs recensaient en août 2020 deux mineurs détenus administratifs. La plupart sont inculpés pour avoir lancé des pierres et 3 enfants sur 4 subissent des violences physiques lors de leur arrestation, transfert ou interrogatoire. 97% n'ont pas accès à un avocat pendant leur interrogatoire. 99% des enfants sont condamnés suite à un plaidé coupable contraint. Une fois leur sentence prononcée, 60% des enfants détenus sont transférés des territoires occupés vers les prisons israéliennes en violation avec la 4e Convention de Genève. On compte 4 centres d'interrogatoire, 3 centres de détention et 18 prisons dans lesquelles sont détenus les prisonniers palestiniens. À l'exception de la prison d'Ofer, en Cisjordanie, toutes les prisons sont situées en Israël, en violation du droit international. 2 cours militaires israéliennes sont présentes en Cisjordanie, à Salem, au nord, et Ofer, près de Ramallah. 99% des Palestiniens inculpés par la justice militaire israélienne sont condamnés. La grande majorité de ces condamnations résulte du plaidé coupable. L'accusé doit plaider coupable pour que la peine requise par le procureur soit réduite. Un prisonnier peut être détenu pendant 90 jours sans voir un avocat, période qui peut être étendue une fois, soit 180 jours au total. Les tortures en prison et pendant l'arrestation sont fréquentes. 218 prisonniers palestiniens ont été tués en détention depuis 1967. Exécution, manque de soins ou torture. Face aux nombreuses violations des droits des prisonniers impunis et à l'arbitraire de leur emprisonnement, 1300 prisonniers palestiniens ont mené une grève de la faim le 17 avril 2017. Pendant plus d'un mois, une pratique courante dans les prisons israéliennes. Un tel mouvement était néanmoins inédit depuis 2013, suite à un accord visant l'amélioration des conditions de vie des détenus. Ceux-ci ont mis fin à leur grève au bout de 42 jours. En 2015 et 2016, Mohamed Alaan et Mohamed El-Kik avaient passé respectivement 62 et 94 jours en refusant de se nourrir. Alors tout ça, c'est documenté. Entre autres, celui qui s'occupe d'amener toutes ces sources et ces informations, c'est l'association Adamer, qui fait un travail remarquable sur la question des prisonniers. Il y a aussi Betselem, ce qu'on a cité dans l'analyse que je vous ai livrée. Et il y a aussi d'autres. Et il y a aussi le journal La Croix. Du coup, il nous reste quelques minutes. Et dans le cadre de l'histoire un peu, et puis du souvenir, je voulais aborder un point qui a eu lieu en 1948, le 9 avril. Et c'est intitulé « Moins on oublie ». Alors, l'histoire du mouvement sioniste en Palestine est trempée dans le sang. Du sang palestinien, ils ont commis de nombreux massacres en Palestine, dont le plus tristement célèbre était, alors en arabe on appelle « Dreya Yassin », et en français on donnera l'interprétation ou l'appellation de « Dreya Yassin ». Il y a 73 ans, le 9 avril 1948, un gang terroriste juif de 120 voyous meurtriers, dirigé par Menahem Begin, puis le chef du gang de Stern, est arrivé dans ce petit village, endormi à la périphérie de Jérusalem, et est entré dans une frénésie de meurtres, de viols et de destructions. Le résultat de cet acte barbare a été de 254 hommes, femmes et enfants, et les personnes âgées assassinées par une sauvagerie inimaginable. Les autres adultes survivants ont été défilés à Jérusalem le lendemain matin et ils ont été tués par balles. La nouvelle de cet acte brutal et inhumain est une terreur sévère dans toute la Palestine, provoquant la fuite des gens pour leur vie. Menahem Begin a décrit cette terreur comme « 1000 chars ». Il est devenu Premier ministre d'Israël et a reçu plus tard le prix Nobel de la paix. David Ben-Gourion, connu comme le père fondateur d'Israël, a dit « Écoutez bien, sans Dreya Yassin, il n'y aurait pas eu d'Israël. L'humanité ne doit pas oublier ou pardonner ce genre de génocide. Nous, les Palestiniens, nous n'oublierons jamais ni ne pardonnons. » Du coup, je vais enchaîner avec un texte d'Edouard Saïd qui parle justement de cet événement et qui intitule son texte « Ce souvenir de Dreya Yassin ». Se souvenir de Deir Yassine, ce n'est pas ressasser les désastres passés, c'est comprendre qui nous sommes, refuser la répétition et savoir où nous allons. Et il raconte « J'ai quitté la Palestine avec mes parents et mes sœurs en décembre 1947. Nous sommes partis pour le Caire, où mon père dirigeait l'antenne égyptienne de la société palestinienne, dont il était l'un des associés. Nous nous trouvions donc là, en terrain plutôt familier, avec une maison, une école, des amis. Le reste de ma famille n'a pas eu cette chance. Au printemps 1948, ils se sont tous retrouvés à l'état de réfugiés, dispersés aux quatre coins du monde arabe, en Jordanie, au Liban, en Égypte. J'avais 12 ans à l'époque. Mais je me souviens qu'on ne me disait pas grand-chose et que je ne comprenais pas la vraie nature de la catastrophe qui nous était arrivée. Je ne suis même pas sûr d'avoir eu conscience d'appartenir à un peuple précis. C'est au cours de l'année 1948 que j'ai commencé à prendre la mesure du malheur qui s'était abattu sur la Palestine arabe. Mon oncle et sa fille étaient à 4 km de Deir Yassine au moment du massacre, le 9 avril 1948. Ils avaient entendu les récits horrifiés de ce qui s'était passé. 250 hommes, femmes et enfants assassinés de sang-froid par les Juifs, comme tout le monde disait alors. Dans ma mémoire, plus que tout autre événement de cette période sombre, c'est Deir Yassine qui émerge les viols, les enfants égorgés, les femmes éventrées, toute cette horreur faite pour frapper l'imagination, cette horreur gratuite infligée à des Palestiniens dont le seul crime avait été de se trouver là. Mais il me fallut du temps pour comprendre le contexte et la vraie signification de Deir Yassine. On pensait généralement que le massacre avait été certes délibéré, mais qu'il s'agissait d'une action terroriste du groupe extrémiste de Menahem Begin, l'Irgun. Or, aujourd'hui, grâce aux recherches de l'historien israélien Benny Morris, nous savons que non seulement les forces régulières de la Haganah ont participé à l'opération, mais aussi que Deir Yassine faisait partie d'un plan d'ensemble destiné à vider la Palestine de sa population arabe. Benny Morris explique que Deir Yassine a été l'événement qui a eu le plus d'effet au cours de la guerre pour précipiter la fuite des villageois arabes hors de Palestine. Ce n'était pas seulement les villageois arabes qui fuyaient pour cette raison et d'autres semblables, c'était 800 000 personnes, les deux tiers de la population palestinienne. Nur Massala, chercheur palestinien israélien, a montré dans deux ouvrages de la notion d'un transfert destiné à débarrasser la terre promise de ses habitants est une constante dans la pensée sioniste. Donc il y a deux ouvrages par rapport à cette question. Les documents qui proviennent presque tous de sources sionistes montrent avec quelle suite dans les idées, quelle détermination les politiciens israéliens, les militaires et les intellectuels ont sans cesse cherché à se débarrasser des Palestiniens, soit par le transfert, comme lors du massacre de Kfar Qassem, soit par l'absolue soumission, les accords d'Oslo, les colonies, l'arrogance de Netanyahou. Tout cela découle en droite ligne d'événements comme Deir Yassine et de l'idéologie qui a conduit. La question demeure, pourquoi Deir Yassine a-t-il été presque oublié? Pourquoi les événements de 1948 ont-ils été évacués des discussions sur la paix? Après tout, nous parlons à des Juifs qui, de façon constante et justifiée, rappellent sans cesse au monde les persécutions liées à l'antisémitisme, l'Holocauste et les nécessaires réparations. Dans son livre sur la révolution à Haïti, en 1789, l'historien haïtien Michel Rolf Trouillot explique que le silence sur la révolution est dû à la façon occidentale de raconter l'histoire qui présente la défaite des indigènes comme inévitable. À moins d'un effort de ces indigènes pour réécrire l'histoire du monde, nous autres Arabes et Palestiniens, seuls moins de cette étape, notre histoire, ce sont les autres qui l'écrivent, nos leaders négocient sur une tabula rasa, et nous continuons à céder sans cesse sur le présent, mais aussi sur le passé. La mémoire collective n'est pas seulement l'héritage d'un peuple, elle est aussi son énergie. Ce n'est pas une donnée inerte, c'est la part vivante de l'identité du peuple qui fonde le sens de ses droits. Se souvenir de Deir Yassine, ce n'est pas recenser les désastres passés, c'est comprendre qui nous sommes, refuser la répétition et savoir où nous allons. Voilà, c'était la rubrique Histoire. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Juste un mot avant de vous quitter, j'aurai l'occasion pour le mois prochain, dans notre prochaine émission, de recevoir le réalisateur Roland Nurier qui viendra nous présenter son nouveau film. J'étais ravi de vous retrouver en direct de Radio Calade, l'émission Palestine ici, Palestine là-bas, en vous souhaitant une très bonne soirée. Mabrouk Lazreg au micro, ciao.
Thank you.